de la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Zeynab Diomandé.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Présentation à mi-parcours du projet promis, entendez promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. 15 points de développement locaux qui ont été élaborés et 163 hectares de restauration forestière dans les villages du projet. Augmentation du carburant, les transporteurs et la direction départementale des transports de Mans se sont rencontrés le mardi dernier en vue d'éviter une éventuelle augmentation du transport. Les détails que vous aurez avec notre correspondant Stéphane Adams. Et puis à l'étranger, présidentiel en Égypte, le principal opposant jette l'éponge. Lancé le 27 juillet 2021, le projet PROMIR entendait promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire et mise en œuvre conjointement par le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et la FAO dans 10 villages de chacune des 3 régions de couverture du projet. Ce projet a été présenté à mi-parcours par la FAO, compte rendu signé Claude Mabéa.
D'entrée de jeu, le colonel Assamoah Abbé Jonas, coordonnateur du projet PROMIR à la FAO, a rappelé l'objectif visé.
C'est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, issues donc de la déforestation et la dégradation des forêts, à travers le mécanisme RED+. C'est un mécanisme international auquel notre pays a adhéré en juin 2011 pour donc lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Nous réalisons des activités communautaires, des activités de restauration forestière, des activités donc de gouvernance locale et des activités d'appui aux différents producteurs et aux coopératives de cacao biologique au bénéfice de 7550 bénéficiaires directs dans les différentes zones du projet avec 30% de femmes.
Il a ensuite présenté certains résultats obtenus à mi-chemin.
Nous avons à ce stade élaboré 15 plans de développement locaux sur les 23 plans attendus dans les villages du projet. Nous avons aussi réalisé des activités de sensibilisation des populations à adopter les bonnes pratiques agricoles. Nous avons à ce stade réalisé 163 hectares de restauration forestière dans les 3 villages du projet sur 150 qui étaient non planifiés. On a converti 850 hectares de parcelles existantes en 6 zones agroforestières.
Le colonel Assamoah Abbé Jonas a enfin énuméré quelques-unes des perspectives du projet PROMIR.
On doit faire du reboisement, on doit aussi faire des enrichissements sur 1500 hectares dans les 3 régions, 3650 hectares de parcelles existantes à convertir en 6 zones agroforestières. L'agroforesterie, c'est l'intégration de l'arbre dans les systèmes de production agricole ou bien d'élevage.
À noter que le projet PROMIR a été financé par le Fonds vert climat pour la période 2021-2026.
L'université Jean-Laurignon-Guédé de Dalloa a effectué récemment sa rentrée solennelle sous le signe de l'employabilité de ses étudiants. Cette cérémonie qui marque officiellement le démarrage de l'année universitaire 2023-2024 avait pour thème un enseignement supérieur d'excellence et d'innovation pour une meilleure employabilité de la jeunesse. Les détails avec cette correspondance de Jean-Noël Kwami.
Au cours de cette cérémonie de rentrée solennelle, la présidente de l'université Jean-Laurignon-Guédé, le professeur Adoïkro Viviane, a expliqué les réformes initiées dans le système universitaire par le gouvernement.
Il y a une loi nouvelle. L'université change complètement de statut. L'État ne peut pas être le seul employeur de la Côte d'Ivoire. Donc on met l'accent sur l'auto-emploi. Il y a un socle qui sera donné à tous les étudiants. L'anglais, il faut être parfaitement bilingue pour pouvoir affronter les marchés extérieurs. Aujourd'hui, l'informatique est incontournable. Il faut des notions d'entrepreneuriat et il y a le socle aussi de montage de projets. Si vous ne savez pas monter des projets, vous ne pouvez pas avoir de financement. Nous devons revoir tous nos curricula, adapter nos curricula à l'employabilité.
Le vice-président de l'université en charge de la pédagogie, de la vie universitaire, de la recherche et de l'innovation technologique, le professeur Soro Donimeton, a insisté pour sa part sur la qualité de la formation.
Nous pourrions être autour de 7% des diplômés insérés à l'ENS, les sciences de la vie et de la terre, les diplômés de UGILOG sont parmi les meilleurs. Le nombre de docteurs sortis de UGILOG, une trentaine. Nous avons au moins la moitié qui est recrutée. La formation est de qualité.
Le conférencier, le professeur Justin Yati-Kouadio, a préconisé, entre autres solutions, l'association des employeurs à l'élaboration des programmes de formation et le développement d'entreprises innovantes au sein de l'université pour l'amélioration de l'employabilité des étudiants au terme de leur formation. Jean-Noël Kwame, d'Aloha, Radio de la Paix.
Pour la première fois dans notre pays, une femme prend les rênes du Sénat, créée il y a 5 ans. Cette élection de Kandia Camara à la présidence de la Chambre haute du Parlement suscite bien de réactions. Parmi ces réactions figurent celles de quelques présidents d'institutions de Côte d'Ivoire, notamment le président du Conseil économique, environnemental et social à Kaoulé, l'inspecteur général d'État à Wandoli Théophile, le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance et de la Lutte contre la Corruption, Epiphane Azorobi, et enfin le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.
Il faut des institutions fortes tenues par les hautes personnalités de ce pays. Et ce qu'il faut noter ici, c'est le fait que nous avons la toute première femme de Côte d'Ivoire, conformément au vœu du président de la République, qui tient aujourd'hui la deuxième chambre parlementaire, la haute chambre. Je crois que cela est à saluer et cela démontre que les institutions sont en marche dans ce pays pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire avec le gouvernement.
L'élection de Mme Kandia Camara comme présidente du Sénat, la deuxième chambre de notre Parlement. Nous sommes contents, d'abord parce que nous connaissons la personne. Nous savons que c'est un très bon choix qui a été fait et avec elle, nous sommes sûrs que cette deuxième chambre irait toujours de l'avant.
Nous sommes fiers de la désignation de Mme Kandia Camara en tant que première femme ivoirienne qui préside une institution parlementaire à l'image du Sénat. C'est une vraie fierté, une légitime fierté, et nous plaçons tout l'espoir que le Sénat va jouer pleinement son rôle sous sa responsabilité en termes de renforcement du développement local, parce que le Sénat a cette particularité d'être la représentation des collectivités décentralisées, et nous plaçons tout l'espoir, étant donné que la présidente du Sénat est également maire de la commune d'Abobo, nous plaçons tout l'espoir que la présence de Mme Kandia Camara en tant que président du Sénat va booster le développement local.
Le président de la République, en désignant la ministre d'État Kandia Camara, vient donc de faire une fois de plus un geste envers les femmes. Et comme il a déjà montré, il a toujours dit que les femmes occupaient une place importante dans notre société et qu'il avait fixé des objectifs, ce qui nous a amené à adopter au plan de la loi la parité avec les femmes, en tout cas une quote-part importante pour les femmes. Et de façon historique, c'est la première femme qui va donc diriger une institution. Nous sommes deux chambres et mes relations avec la ministre d'État Kandia datent depuis 1995. Donc c'est vous dire le parcours que nous avons connu ensemble. Et donc je suis un homme heureux. Je voudrais saluer le président Aoussou qui a tout donné, homme de devoir, homme d'engagement, homme de mission.
À l'instant, les réactions des présidents d'institutions au micro d'Émile Yao. Un mot de santé à présent, la digitalisation dans la lutte contre les cancers du sein, de la théorie à la pratique, tel est le thème officiel des activités de la campagne d'octobre rose 2023, lancée le mercredi 11 octobre par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'activité s'est tenue au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, compte rendu signé Matatouré.
Cette campagne qui se déroule au cours du mois d'octobre vise à sensibiliser à toutes les couches sociales sur le cancer du sein chez la femme et l'intérêt à se faire dépister. Elle vise près de 5 millions de femmes. Le professeur Didier Coco Koulibaly Judith est la directrice du Centre d'oncologie médicale et de radiothérapie. Elle nous dresse ici un bilan des résultats obtenus depuis son ouverture.
La Côte d'Ivoire a réussi depuis l'ouverture de cet hôpital à réduire de 25% le risque de décès par cancer du sein. l'hôpital a reçu plus de 10 000 nouveaux patients et 1818 personnes exactement au 30 septembre 2023 avaient été reçues ici pour un cancer du sein. À 3 ans, tous les stades confondus, 63 personnes étaient en vie sur 100. Mais lorsqu'on a extrait le sous-groupe de personnes chez qui ça avait été découvert tôt au décours d'un dépistage, on s'est rendu compte que 81 personnes étaient en vie. D'où l'intérêt du dépistage.
Pierre Ngoudemba, ministre ivoirien de la Santé, nous fait le point en Côte d'Ivoire.
Le cancer constitue un véritable problème de santé publique dans le monde. Et la Côte d'Ivoire, notre pays n'est pas en reste, avec plus de 17 300 nouveaux cas de cancer par an. Le cancer du sein en Côte d'Ivoire représente 19% de tous les cancers et 33% des cancers féminins. Le cancer du sein se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est découvert tôt et correctement traité.
La première dame Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, a relevé l'importance de la plateforme digitale baptisée CNRAO Stop Cancer, qui servira à rappeler aux usagers les dates, lieux et coûts des actions de dépistage.
Un atelier régional sur la qualité des données s'est ouvert ce mardi 10 octobre 2023 à Abidjan, à l'initiative de l'UNESCO, avec pour objectif de renforcer la qualité du processus de collecte des données ainsi que leur analyse. Durant 3 jours, des experts venus de plusieurs pays conjuguent leurs efforts afin de permettre aux jeunes d'être mieux informés sur leur santé et leur bien-être. Les précisions de Mam Omar Diop, représentant pays de l'UNESCO en Côte d'Ivoire.
Cet atelier régional est un atelier qui rassemble les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale pour parler des questions d'éducation à la santé. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de soucis par rapport aux jeunes, à tout ce qui était maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH-SIDA, mais d'autres maladies aussi. Et après, d'autres problèmes comme les grossesses précoces en milieu scolaire, les violences basées sur le genre. Donc ça, c'est une thématique apportée par l'UNESCO et le Fonds National aussi pour la Population, le FUNIAP, ensemble pour parler de l'éducation à la santé. Donc on fait travailler les ministères d'éducation et les ministères de la santé ensemble pour adresser ces questions-là. Et cet atelier régional à Abidjan regroupe les pays pour parler des indicateurs qui nous permettent de renseigner les politiques éducatives.
Mam Omar Diop, représentant pays de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, interrogé par Didier Blé. Dans le cadre de l'augmentation du coût du carburant observé depuis quelques temps et qui pourrait impacter le tarif des transports, le corps préfectoral de Mans, transporteur et la direction départementale des transports se sont rencontrés à la salle de conférence de la préfecture de la dite ville le mardi 10 octobre pour plancher sur la question. Objectif, harmoniser leurs différends pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Les échos avec Stéphane Adams.
À l'entame des échanges, les transporteurs ont fait connaître leurs préoccupations du moment.
Monsieur le préfet, nous on a accepté qu'on ne va pas augmenter le transport compte tenu de l'augmentation de carburant parce que le gouvernement a accepté de nous accorder les 33 barrages. Mais il y a barrages partout. Dans l'année, il y en a. Vianquement, il y en a. Vélé, il y en a. Vumbé, il y en a. Sous la de Quibri, il y en a. Si on veut calculer, il y a 6 à Manville. Monsieur le préfet, essayez de voir le problème des barrages. C'est ce que nous demandons.
Face à l'enjeu lié au volet sécuritaire, le préfet des régions du Tonkpi, Wamblignon Célestin, préfet du département de Mans, s'est voulu clair et précis.
On ne peut commercer que dans un environnement sécuritaire appréciable, que dans une paix appréciable. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Et donc, quand vous posez des préoccupations, il faut en tenir compte. Et n'oubliez pas, le terrorisme est une guerre asymétrique qui peut subvenir à n'importe quel endroit de la planète. Et c'est lorsque ça frappe qu'on est surpris et qu'on prend les dispositions. Or, la Côte d'Ivoire a décidé d'être dans la prévention, d'où la politique de police de proximité. C'est cette activité qui doit se mener avec vous, mais à partir d'un écosystème. Si déjà le maillage ne permet pas de perdre telle activité, ben on est tous livrés à ces choses-là.
Sentiment du directeur départemental des transports de Mans en fin de rencontre, Djebi Irie Wilson.
C'est de remercier les transporteurs de la région du Tonkpi qui se sont donc alignés sur la décision du gouvernement. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs de transport à Mans.
À noter que la présence des chefs de commandement de police et de la gendarmerie était observée à cette tribune d'échange. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
À l'international, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle en Égypte, Ahmed Al-Tantawi, a annoncé aujourd'hui, 2 mois avant le scrutin présidentiel, qu'il ne sera pas candidat. Malgré le mouvement inédit qu'il a créé autour de lui, son candidat de campagne, son directeur de campagne, a annoncé n'avoir réuni que 14 000 signatures sur les 25 000 signatures de citoyens nécessaires pour pouvoir se présenter. Et puis après un moment d'accalmie, l'on note depuis plus d'une semaine une reprise des affrontements entre Israël et le Hamas, une organisation militaire islamique et palestinienne qui a lancé le samedi 7 octobre 2023 à l'aube une offensive baptisée Déluge al-Aqsa. Quelles pourraient être éventuellement les solutions de sortie de cette autre crise dans cette zone? Quelles peuvent être les conséquences diplomatiques et économiques dans les relations entre les deux pays? Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit ravivé au Proche-Orient? Élément de réponse avec professeur Bamba Abdoulaye.
Les conditions de vie des populations palestiniennes dans la bande de Gaza, les représailles au quotidien d'Israël sont autant d'éléments qui expliquent cette relation très tendue. Sur le plan économique, c'est d'abord une situation difficile pour les populations de la bande de Gaza qui vivent au gré des humeurs des autorités israéliennes qui peuvent couper le courant ou l'eau quand elles veulent. Mais en même temps, ça va encore rendre les relations beaucoup plus difficiles sur le plan politique. Les différentes étapes de perspective de dialogue politique qui se profilent à l'horizon vont être remises en cause. Mais au-delà d'Israël, les pays arabes vont être soumis à une forte pression de la part de leur opinion nationale et cela va naturellement avoir une répercussion dans leurs relations avec Israël. Dans un premier temps, il faut que l'ONU joue son rôle, il faut que la communauté internationale, les alliés d'Israël, puissent exercer une certaine forme de pression pour réduire les bombardements et peut-être chercher d'autres voies de représailles, mais sans vraiment tout détruire de façon azimut. La deuxième option peut venir également à l'intérieur même d'Israël, des populations qui ont été choquées par la violence du Hamas. En tout état de cause, il faut se retrouver autour de la table de négociation parce que les conséquences du part et d'autre sont vraiment, vraiment désastreuses et c'est pas bon pour la sous-région et l'image même de l'humanité.
Professeur Bamba Abdoulaye, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, interrogé par Marthe Kakou. C'est la fin de ce journal, mais avant, le rappel de l'essentiel. Présentation à mi-parcours du projet PROMIR, entendait promouvoir une production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Ce sont 15 points de développement locaux qui ont été élaborés et 163 hectares de restauration forestière dans les villages du projet. Et puis à l'étranger, présidentiel en Égypte, le principal opposant jette l'éponge. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite le magazine humanitaire avec Sonia Ndian.